Juste vous mentionner, pour les deux prochaines semaines, Normand va être absent. Il est parti à Boston. Normand a commencé des études pour le doctorat en homilétique, en prédication. Donc, il fait un doctorat, ça va être sur quelques années. Et puis, comme ça, chaque année, il va devoir s'absenter pour environ 2 semaines. Il s'en va à Boston, c'est intensif. Vraiment tout un privilège qu'il est en train d'étudier avec la référence en prédication, Aidan Robinson. Et c'est un beau privilège. Sam Beck veut investir en lui pour qu'il soit une ressource ici au Québec. Alors, je pense que ça va être intéressant aussi pour l'Église. Vous allez voir à travers ces années-là, les choses que lui va apprendre, évidemment, qu'il va mettre en pratique ici, puis qu'on va jaser ensemble. Vous mentionnez aussi les photos du spectacle de Pâques sont maintenant disponibles. Si tu veux montrer sur le site Internet, s'il te plaît, Suzy. Alors, vous allez sur rebelle.qc.ca. Vous avez un beau site qui a été monté. Vous pouvez vous promener là-dessus. Vous pouvez prendre des photos pour vous-même, les downloader. Si vous voulez commander des photos plus grandes, de qualité, il y a un courriel pour écrire à Annie. Vraiment, Annie-Claude et puis Oscar ont fait un travail extraordinaire, là. Je pense que ça va être des très, très beaux souvenirs. Hein? C'est vraiment... Regardez notre Herman National, s'il est beau. Hein? C'est à son meilleur. Il y a des photos comme ça aussi humoristiques, parce qu'à un moment donné, Annie est allée faire des photos avant le spectacle. Elle faisait des portraits, vous irez voir une couple de photos de Normand. C'est pas mal de fun. Juste vous offrir une opportunité de service dans l'Église, à la projection. On a besoin de personnes qui vont s'impliquer pour faire le travail que Suzy fait actuellement. Tous les dimanches matins, vraiment, on a besoin d'ajouter des personnes dans l'équipe. C'est un ministère qui est maintenant, on pourrait dire, essentiel. C'est un bel outil pour la communication. Même pendant nos prédications, ça vous aide des fois à comprendre quand on n'est pas trop clair, à savoir où est-ce qu'on est rendu. Mais alors, si vous avez à cœur de vous impliquer là-dedans, contactez s'il vous plaît Nathalie Valcourt, approchez-la ou allez poser des questions qui ont des informations, on va vous mettre en contact avec elle pour vous donner des informations si vous désirez vous impliquer à ce niveau. Une autre annonce, quelques personnes ont fait des demandes pour être membres. Si vous êtes dans la salle, je vous demanderai juste de vous lever alors que je vous nomme Célia Botello, Mélodie Francis, Yves et Louise Gauthier, Marcel et Hélène Lapointe, André et Daniel Laveau. Alors, on vous invite à aller faire connaissance avec ces personnes-là. Merci. Qui ont fait demande pour être membres. On va voter pour leur candidature comme membre dans 4 semaines environ. Ce soir, on continue notre série sur les choses à venir, les jugements associés à la deuxième venue de Jésus-Christ à 18h30 avec Marc Bacon ce soir ici. Et enfin, ce matin, je termine notre série, La vie comblée. C'est la dernière. J'espère que vous avez été bénis à travers la série, que Dieu s'en est servi pour vous faire grandir, vous rapprocher de lui. Et on espère que ça va continuer aussi à servir par la suite. Alors, Dieu voulant, d'ici soit dimanche prochain ou dimanche suivant, on devrait avoir un coffret. On va essayer maintenant, lorsqu'on fait des séries ensemble, Normand et moi, de sortir un coffret après que vous aurez peut-être à cœur de partager à des gens. Je pense pas que je l'accroche, les gars. Je vous laisse travailler là-dessus. Soit un coffret que vous voulez partager avec des personnes. Ça va encore rester sur le site, peut-être pas sur la page d'accueil, mais vous pourrez envoyer des personnes à aller écouter sur le site aussi les prédications. Je vous mentionne, je vais en parler davantage dimanche prochain. Dans quelques semaines, Normand et moi, on va faire une dernière série avant le mois de septembre, une série de 6 semaines. Et c'est sur la famille dans l'ensemble. Ça veut dire qu'on va parler des personnes seules, célibataires. On va parler des enfants, on va parler des couples. Une série de 6 semaines. Je vous en parle un petit peu plus dimanche prochain. On est en train de travailler là-dessus. On fait quelque chose de spécial ce matin. Je vais inviter les parents à venir me rejoindre en avant. Carole et Monique. Oui, les parents. Carole et Monique, parents. Non, pitié. Je ne serais pas prêt pour tout le monde, là, tu sais. Carole et Monique sont membres ici à l'Église et puis ils nous quittent cet été. Ils déménagent. Ils s'en vont dans une région lointaine où personne n'oserait aller. Juste à côté d'où mon frère s'en va, en fait.
Le boss à Rolin, quand il a su ça, le boss à Rolin, il vient de ce coin-là.
Oui.
Quand il a su qu'on s'en allait, il dit il n'a fumé de bon.
Parce qu'il s'éloigne, parce qu'il s'en va en région. Mais on veut juste souligner votre départ. On vous donne un nouveau testament, la nouvelle édition de la Bible Genève. Et puis, j'aimerais ça juste que vous nous partagiez ce que vous avez à cœur là-bas. Je pense que vous allez vous joindre à l'église de Rimouski. Fait que peut-être si vous avez à cœur déjà des choses, une vision pour la petite assemblée, tout ça.
Ce qu'on veut, nous autres, on veut quitter la grande ville, puis on veut servir dans l'église de Rimouski.
C'est une église d'à peu près 60 personnes, je pense, hein?
Oui, à peu près.
C'est ça, hein?
On remercie le temps qu'on a aimé bien passer du temps avec vous autres. Puis on vous a bien aimé, mais on continue à vous aimer pareil.
Merci. On vous donne ça. J'aimerais ça prier pour vous. J'aimerais ça prier pour que le Seigneur vous accompagne. C'est une assemblée d'à peu près 60 personnes, je pense, avec les enfants, et certainement qu'ils vont apprécier leur ministère. Carole et Monique, c'est des serviteurs. Toujours avec un sourire, toujours avec un sourire, des vrais serviteurs. Et je suis certain qu'ils vont être appréciés là-bas dans l'Église. On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour notre frère et notre sœur qui ont été avec nous. Merci, Seigneur, pour leur service dans l'Église. Et honnêtement, Seigneur, devant toi, mon Dieu, ils vont me manquer. Je vais toujours être dans la joie quand je vais les croiser, quand je vais pouvoir les saluer. Et je suis certain que l'Église là-bas va apprécier, Seigneur, leur intégrité, leur service, leur don de soi. Père, on veut te demander de faire reposer ta bénédiction sur ce couple, de faire reposer ta bénédiction, Seigneur, sur leur ministère là-bas. Viens les conduire, viens te servir d'eux, Seigneur. C'est un privilège pour nous de voir des gens aller servir comme ça dans des régions. Comme Hugo et Lynn partent à Rivière-du-Loup, Seigneur, accompagne Carole et Monique. Viens les bénir, mon Dieu, et que ta bénédiction vraiment repose sur eux. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen. Merci beaucoup. Seigneur, vous bénisse. Salut, Carole. Vous êtes dans deux chroniques avec moi? Deux chroniques 20? Ce matin, on va aller voir un passage pas mal spécial. Jean-Paul vous a déjà introduit au passage, mais laissez-moi, avant de tourner dans le texte, juste vous poser quelques questions. Est-ce qu'il vous arrive des fois de traverser des périodes où vous avez l'impression que tout va mal et que tout va mal trop vite? Ça vous arrive, ça? Des périodes où on dirait que les tuiles nous tombent sur la tête plus vite qu'on est capable de les encaisser. Non? Vous savez, il y a des périodes de bénédiction où on dirait tout va bien, puis c'est comme si, des fois, on a l'impression que le Seigneur, il a de la difficulté à figurer ça dans le temps, puis à tailler ça, tu sais. On voudrait comme il dit, tu sais, une par semaine, une par mois. Mais finalement, ça marche pas comme ça. Des fois, il y a des grandes périodes où tu te dis, boy, ça se peut pas, il y a bien un nuage gris qui va arriver à un moment donné. Et là, tu dis, non, 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 le Seigneur ne fait pas ce que c'est bénédiction des propres malédictions. Mais, aussi, où on dirait que les tuiles n'arrêtent pas de nous tomber sur la tête. Tu veux que je le débranche, puis je le rebranche. Qu'est-ce que ça dit, ça? Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Je suis-tu à off ou je suis correct? OK. Alors, il y a des périodes comme ça, on dirait que ça n'arrête pas et puis il n'y a rien qui va nous lâcher. J'ai même rencontré une fois une personne et je conviens avec vous que c'est... Donc, il y a un manque de respect envers Dieu de l'exprimer de cette manière-là. Mais en même temps, cette personne-là exprimait quand même quelque chose qu'on vit souvent. La personne, elle m'a dit, il ne pourrait pas m'oublier un petit peu. Et sans oser le dire comme ça, comme chrétien... Des fois, quand même, on a l'impression, on voudrait dire au Seigneur, « Seigneur, me semble que, tu sais, si tu as besoin d'un conseil là-dessus, on va ralentir un peu la cadence. » Et ça vient comme ça et ça n'arrête pas. Vous avez traversé des moments comme ça? Des journées, des périodes où vous avez l'impression que tout le monde s'est concerté pour vous tomber dessus en même temps. Non, hein? Jamais? Tu sais, ça commence le matin, puis ça finit pas pendant toute la journée, pendant une semaine même des fois. Puis on dirait que la game est perdue d'avance. Il arrive une situation, c'est tellement gros, on dirait que c'est perdu d'avance. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'on doit faire lorsqu'il semble que la chance ne nous sourit pas, lorsqu'il semble que les probabilités ou les problèmes sont trop gros pour qu'on puisse en sortir victorieux. On s'arrête à tête reposée, puis on dit « c'est pas possible, je peux pas m'en sortir ». Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces circonstances-là? Vous savez, à travers la série, on prenait des noms de Dieu pour illustrer certaines choses que Dieu veut faire dans nos vies. Un de ces noms en hébreu, c'est Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi, qui signifie « Je suis le Dieu qui te protégera ». Littéralement, l'Éternel ma bannière, l'Éternel sous lequel je vais me placer pour ma protection, l'Éternel qui veut me protéger dans des situations insurmontables, ton protecteur. Et un des beaux passages pour illustrer cet enseignement, c'est dans 2 Chroniques 20. C'est vraiment un des beaux passages. L'histoire raconte, très rapidement, comme Jean-Paul l'a mentionné, un moment où trois nations ennemies se liguent ensemble pour aller attaquer Israël. Ils se rassemblent et ils décident qu'ils vont aller attaquer en même temps la nation d'Israël pour se prendre contre eux. Le roi d'Israël à cette époque, c'est le roi Josaphat. Un homme de Dieu, un homme qui veut marcher avec Dieu de bien des égards. Maintenant, On peut dire que ces chances sont à 3-1, n'est-ce pas? Il y a 3 nations qui s'en viennent d'attaquer. Israël a une petite armée face à eux. Et on peut dire que selon toute probabilité, les choses devraient terminer par une défaite pour Israël. Selon toute probabilité, ça devrait tourner mal pour Israël. Ça devrait mal finir comme histoire. Ça devrait être un récit de dévastation pour le peuple d'Israël. Et pourtant, au bout du compte, l'histoire nous dit que Josaphat s'en sort victorieux. Il a fait mentir les probabilités, les statistiques, parce qu'il a su faire ce qu'il fallait faire dans les moments difficiles. Josaphat a fait mentir les statistiques parce qu'il savait et il a fait ce qu'il fallait faire dans des moments où on fait face à des problèmes insurmontables. C'est une histoire merveilleuse qui explique comment Dieu a protégé Israël. Et Dieu ne nous donne pas ces histoires-là uniquement pour nous faire des leçons d'histoire. Il veut qu'on tire de ça des principes. Il veut qu'on tire des leçons de ça pour pouvoir apprendre comment nous tourner vers Dieu. Certains d'entre vous traversez des batailles financières et vous vous arrêtez, vous regardez ça la tête froide puis vous dites « ça se peut pas, je peux pas m'en sortir ». J'y arrivais pas. C'est peut-être même à quelque part de votre faute si vous vous retrouvez là. Mais quand même, vous criez à Dieu puis vous dites « Seigneur, tu peux pas me laisser là-dedans ». Je sais que j'ai fait des niaiseries, mais sors-moi de là. C'est incroyable. J'arriverai pas à m'en sortir par moi-même. Certains d'entre vous, c'est au niveau relationnel. C'est des relations avec des gens, puis vous voyez pas comment vous allez pouvoir vous en sortir. Vous voyez pas une issue favorable à cette situation-là. Même lorsque vous vous arrêtez puis vous regardez ça calmement, humainement, c'est hors de votre portée. Et certains d'entre vous, on connaît, vous luttez avec des maladies. D'autres qu'on connaît peut-être pas, puis vous luttez avec une maladie, puis on n'est même pas au courant. Mais quel principe est-ce que je peux tirer de ce récit, de l'attitude de Josaphat, pour pouvoir réagir moi aussi, comme Dieu me demande de le faire dans des circonstances semblables? Qu'est-ce qu'on peut apprendre ici, et qu'est-ce qu'on doit faire dans des moments comme ceux-là? J'ai essayé de résumer ça en 5 pas, d'accord? On va survoler l'histoire ensemble très rapidement, mais j'ai essayé de résumer ça en 5 pas, 5 actions qu'on devrait prendre pour pouvoir faire face à ces situations qui semblent insurmontables. Premièrement, me tourner vers Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, je dois me tourner vers Dieu, je dois aller vers Dieu. Je cours à Dieu pour lui dire, « Seigneur, je suis dépassé par les circonstances. » Et en réalité, ce que je veux faire, je veux aller vers Dieu pour lui dire, « Seigneur, comment est-ce que tu vois ça, toi, cette histoire-là? » Je veux aller vers Dieu pour demander à Dieu, « Comment est-ce que tu vois ça, cette situation-là, toi? Quelle est ta perspective là-dessus? » Parce que voyez-vous, notre perspective à nous est très limitée, hein? On n'est pas éternel. Et donc, on a les yeux fixés sur le moment présent. Avec un peu d'années, avec un peu de sagesse, on a appris certaines choses, mais on a tendance à arrêter nos regards sur le moment présent et à rester là. Mais Dieu, lui, est éternel. Et donc, Dieu connaissait bien avant que le problème surgisse le début du problème, et bien avant qu'il ne soit terminé, Dieu connaît comment est-ce que le problème va se terminer. Dieu a une perspective éternelle, il connaît le passé, le présent et l'avenir. Et j'ai besoin d'aller vers Dieu pour prendre de la distance par rapport à cette situation et apprendre à regarder le problème comme Dieu le voit. Chercher la face de Dieu pour apprendre à le regarder comme lui. Et trop souvent, on conçoit la prière comme un dernier recours. Se tourner vers Dieu dans la prière, on prend ça comme un dernier recours, trop souvent. Au lieu d'être notre premier recours, c'est celui qu'on prend à la fin. La prière, malheureusement, est notre dernière ressource. Et ça ne devrait pas être comme cela. Les gens vous diront, j'imagine que tout ce qui reste à faire, c'est de prier. Hein? Comme si c'est vraiment un signe que tout est perdu, qu'on a essayé tout ce qui pouvait faire une différence, il reste juste ça. Vos amis, sans le dire comme ça, mais dans le fond, c'est ça qui est derrière, vont vous dire, est-ce qu'on en est vraiment rendu à ce point-là? Est-ce que la situation est tellement désespérée qu'il reste juste la prière? Mais ça ne doit pas être comme ça. La prière doit être notre premier choix. Ça doit être notre premier réflexe, se tourner vers Dieu pour aller dans la prière. Si à quelque part, je veux apprendre à lutter avec Dieu pour battre les probabilités, les statistiques dans des situations difficiles, des problèmes insurmontables dans ma vie. Regardez ce qui est dit dans 2 Chroniques 20, les versets 1 et 3. Après cela, les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Encerclez les mots après. Après cela vint la guerre. Après quoi? Mais voyez-vous, au chapitre 19, le peuple d'Israël vient de vivre un réveil. Un immense réveil. Et ce qui s'est passé, c'est que le roi Josaphat s'est promené à travers tout le pays pour ramener le peuple à Dieu. Il est allé faire du ménage dans les cultes païens des gens du peuple, et il est allé faire du ménage pour ramener le peuple à Dieu. Un réveil s'en est suivi. La bénédiction de Dieu est sur le pays. Le pays est dans la joie. Après cela, vint une guerre. Et à quelque part, je trouve que ça reflète tellement la réalité de la vie. La vie est composée de ces moments de grande bénédiction où on dirait, Seigneur, je suis vraiment sur la vague de ta bénédiction. Tout va bien, Seigneur, c'est incroyable. Suivi parfois de moments très difficiles où on dirait que tous les problèmes arrivent en même temps. Et la vie est ainsi faite. Il y a des hauts, des montagnes et parfois on traverse des vallées sombres et difficiles. Et la vie est faite comme ça. Il va y avoir des moments d'allégresse et de joie et il va y avoir des moments difficiles. Et on veut apprendre de Josaphat comment apprendre à traverser ces moments qui sont plus difficiles. Il y en a qui vont survenir, peut-être que vous-même êtes en train d'en traverser actuellement. Merci, M. Prévost. Si moi j'ai froid aux mains, vous autres, vous devez être gelés. Je le sais. Excusez-moi. Maintenant, remarquez bien la réaction du roi. Le texte nous dit que le roi a eu peur. C'est normal. Le roi a eu peur. Écoutez, il y a trois nations ennemies puissantes. C'est des gens de guerre qui viennent attaquer Israël. Israël ne fait pas le poids. Le roi le sait, il a peur. C'est normal. C'est même une réaction sensée, intelligente. Tu calcules les odds, puis tu dis, on est dans le trouble. Le roi a peur, c'est normal. Et chacun d'entre nous, peut-être vous actuellement, vous traversez des situations où vous regardez ça à tête froide puis vous dites, je suis dans le trouble. Et vous avez peur. C'est normal, c'est pas un problème, ça. Il n'y a aucun problème avec le fait d'avoir peur devant des situations difficiles. En fait, la difficulté survient dans ce qu'on fait avec notre peur. Dans ce qu'on fait avec cette peur-là. D'avoir peur, des fois, c'est juste un signe d'intelligence. C'est juste que tu es toute là. Puis tu es capable de calculer le trouble qui est devant toi. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette peur-là? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous arrivez devant ces situations qui vous effraient? Et puis, à un certain moment donné, vous regardez ça, puis vous êtes effrayé. Est-ce que ça a tendance à vous déstabiliser? À vous amener dans le découragement? À vous amener à vous écraser, à sombrer dans le découragement? Vous avez envie d'abandonner, de lâcher la serviette avant même de vous engager dans le combat? Est-ce que vous laissez ces situations-là venir vous écraser? Vous ne devez jamais vous laissez intimider par des situations difficiles. Pas pour l'enfant de Dieu, pas pour celui qui marche avec le Seigneur. On ne doit jamais se laisser intimider pour être amené à fuir devant des situations difficiles. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Au contraire, rappelez-vous la prédication de la semaine dernière, les situations difficiles doivent nous motiver. Là, vous allez dire, c'est cute, Yannick, dans tes livres de théologie. Là. Dans ton bureau cette semaine, c'est un gros concept, hein, motivé par les situations difficiles, c'est fort. Tu sais. Non, c'est vrai. C'est vrai, les situations difficiles devraient vous motiver à prier davantage. Et souvent, c'est pour ça que Dieu permet ces situations-là. Devraient vous motiver à faire davantage confiance à Dieu. Les situations difficiles devraient vous pousser à vous attendre davantage à Dieu. Qu'elles vous poussent à dépendre davantage de lui. Qu'elles vous poussent à avoir les bonnes priorités dans votre vie. Des fois, c'est ça que Dieu veut faire. Il est en train de faire du ménage. Il veut vous amener à rejeter certaines choses qui sont inutiles ou qui ne sont pas bonnes pour vous concentrer sur les choses qui sont utiles, pour placer vos énergies là. Les situations difficiles devraient vous amener, premièrement, à vous tourner vers Dieu. Vous pousser vers Dieu. La peur est là, c'est normal. Qu'est-ce que je fais avec? Josaphat a eu le bon réflexe. Il s'est tourné immédiatement vers Dieu. Il est allé vers Dieu, il est allé appeler son secours. Et ça, c'est le premier pas que Josaphat a fait, qu'on doit faire. Développer ce réflexe dans notre cœur. Premièrement, je me tourne vers Dieu quand je sens l'inquiétude qui vient à l'intérieur de moi, parce que je suis sensé, je calcule les odds, puis ils ne sont pas de mon bord. Je me tourne vers Dieu immédiatement. Deuxième pas, parler à Dieu. Je vais aller vers lui et je vais aller lui parler. Il n'y a aucun problème qui est ni trop grand, ni trop petit pour être apporté dans la prière. Regardez verset 5, ce que ça dit. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et il pria ainsi. J'aime ça ce qu'il fait ici. C'est le roi, hein? C'est le chef. Maintenant, si Josaphat avait été capitaine sur le Titanic, ce qu'il aurait fait, dès qu'il aurait appris la nouvelle, il aurait rassemblé tout l'équipage, tous les passagers, puis il leur aurait dit, on est dans le trouble, on va couler. C'est ça qu'il fait ici. Josaphat rassemble tout le peuple. hommes, femmes et enfants, il les rassemble et puis il prie à l'Éternel devant tout le peuple et il déclare que la situation est catastrophique, qu'on est dans le trouble. Il a peur, il rassemble le peuple, il va dans la prière. Et ce que Josaphat est en train de faire ici, il est en train d'enseigner le peuple. J'aime ça. Il ne dirige pas, il n'offre pas un leadership comme celui qui ne connaît pas Dieu. Il offre le leadership de la foi. Si vous avez vu le film, le capitaine du Titanic a déclaré à tout le monde qu'on était perdu quand c'était comme évident, tu sais, c'est parce que mes pieds sont mouillés. T'as pas besoin de me le dire, il est trop tard. C'est pas ça que Josaphat fait ici. Immédiatement, il rassemble le peuple, il va dans la prière, et puis il déclare devant Dieu, devant la situation, et il va devant l'Éternel. Et puis, il demande à Dieu de venir les secourir. Maintenant, c'est important, quand tout semble aller contre nous, on doit prier différemment de la manière dont on prie habituellement. Notre prière va être différente. Et je veux faire ressortir très rapidement, juste pour qu'on apprenne de Josaphat, trois choses qui sont dans sa prière et qu'on veut mettre dans nos prières pour ces jours où tout semble aller mal. Comment est-ce qu'on veut prier dans ces journées-là? Premier élément, on le trouve au verset 6. L'Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. Voyez-vous, la première chose que Josaphat fait ici, c'est qu'il veut se rappeler qui est Dieu. Et la première chose qu'on doit faire dans nos prières, lorsqu'on réalise qu'on est dans des situations insurmontables, vous voulez vous rappeler qui est la personne de Dieu. J'ai besoin de me rappeler qui est la personne de Dieu. J'ai besoin de détourner mon focus de mon problème pour me tourner vers Dieu et focusser sur Dieu. Et me rappeler qui est Dieu. Vous devez dire avec le roi, « Dieu, tu es tout-puissant. C'est toi qui possèdes la force. C'est toi qui domines sur toutes choses. » Le roi, dans ce passage-là, est très lucide. Il réalise qu'il y a trois nations ennemies qui sont puissantes, qui s'en viennent pour l'attaquer. Et qu'est-ce qu'il fait? Même s'il est conscient de ça, il dit, c'est le temps de m'arrêter et de déclarer qui est Dieu. Et c'est la première chose que vous voulez faire. Vous tournez vers Dieu, vous allez dans la prière et vous déclarez qui est l'Éternel. Et il dit, je sais que tu es plus puissant que tous mes problèmes, Seigneur. Je sais que tu es plus grand que toutes les forces qui peuvent s'opposer à moi. Je sais que c'est toi qui domines, que ce n'est pas eux qui dominent. Je sais que toi, tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Et à partir de ce moment-là, il peut trouver le regard de la foi. Parce qu'il a pris le temps d'aller dans la prière et de déclarer qui est Dieu pour fixer les regards au bon endroit, fixer les regards sur Dieu. Prendre le temps de me rappeler qui est Dieu. Deuxièmement, je me rappelle de ce qu'il a fait dans le passé. Je me rappelle de ces moments où j'ai vu Dieu venir à mon secours. J'espère que vous cultivez ça dans votre vie personnelle. Que peut-être avec un journal, peut-être que vous avez la mémoire qu'il faut, mais vous prenez le temps de vous rappeler de ces exploits passés que Dieu a fait dans votre vie. Vous regardez en arrière. Peut-être des fois, personnellement, c'est souvent dans les moments où j'ai manqué le plus de foi. C'est cela qui me frappe le plus. Ou j'ai paniqué, puis j'ai agi en pas d'allure, puis finalement, le Seigneur m'a sorti de cette situation-là, puis je regarde au Seigneur, puis je dis, ah, je suis désolé, Seigneur, j'ai tellement manqué de foi. Mais tu étais là encore une fois, comme un bon père, tu as veillé sur moi. Et j'espère que vous cultivez cette habitude de vous rappeler de ces exploits passés que Dieu a fait dans votre vie, où Dieu a renversé des situations qui, selon toute probabilité, devaient mal tourner, peut-être souvent même par votre faute. Mais Dieu a renversé ça et vous avez besoin de regarder en arrière, de vous rappeler ces choses-là. Regardez au verset 7 ce qu'il dit. « N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple? » Josaphat remonte jusqu'à Moïse et Josué. Puis il se rappelle, puis il dit, « Hey Seigneur, c'est toi qui les as fait rentrer dans le pays ici. C'est toi qui as opéré des miracles. Tu avais fait des choses extraordinaires pour nous donner ce pays-là, Seigneur. » Josaphat retourne en arrière pour se rappeler de ce que Dieu a fait dans le passé. Et c'est la deuxième chose que je dois faire. Si je veux pouvoir regarder à l'avenir avec foi, il faut que je sois capable de regarder en arrière et compter et voir la puissance de Dieu qui a été manifestée, voir les bienfaits de Dieu qui ont été manifestés envers moi. Je sais qui tu es, je sais ce que tu as fait dans le passé pour moi. Et puis troisièmement, Josaphat dit, « Seigneur, je veux que tu le fasses encore. Je veux que tu le fasses à nouveau. Demandez l'aide de Dieu maintenant. » Dans la version Darby, j'aime comment il rend le verset 12, il dit, « Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? » Josaphat est en train de dire, « Seigneur, un rappel! Encore une fois, je veux un rerun. Je veux que tu refasses ce que tu as fait dans le passé. Encore une fois, Seigneur, c'est ça qu'il fait. Et Dieu, comme un bon père, va pas dire comme un père qui serait fatigué, « Ah, oh, papa est trop fatigué, c'est assez, là. » Vous voyez, Dieu va pas faire ça. Tu sais, là, il est fidèle, puis lui va continuer. Puis quand son enfant dit « Encore, Seigneur, encore! » Il dit pas « Ah, papa est trop fatigué, écoute, je serai pas là une autre fois, OK? » Non, il est là. Il est présent, il est disponible. Plutôt au verset 9, le roi mentionne quatre sortes de situations difficiles, la guerre, le châtiment, l'épidémie, la famine. Et dans le fond, ce qu'il est en train de dire, il n'y a rien de trop difficile pour toi, Seigneur. Je veux que tu le refasses encore une fois. Je veux y croire, je veux te voir aller, Seigneur. Je veux voir ta gloire se manifester encore une fois dans ma vie, aujourd'hui. Pas juste des histoires du passé, je veux voir ta gloire maintenant, Seigneur, dans ma vie présentement. Et c'est comme ça que vous devez prier quand vous êtes devant des situations où vous êtes complètement dépassé par les circonstances. Quelles que soient les circonstances, rappelez-vous premièrement qui est Dieu. Et faites-le dans la prière. Laissez pas ça théorique. Allez dans la prière devant Dieu et déclarez dans vos louanges qui est Dieu. Et déclarez devant Dieu par des actions de grâce ses exploits passés dans votre vie. Ce qu'il a fait dans le passé, la trace est là de ses bénédictions. Ça prend quelques semaines, quelques mois de vie chrétienne pour pouvoir commencer à compter ses actions merveilleuses. Souvent même à notre conversion, on voit déjà la main de Dieu qui était dans notre vie avant, où Dieu nous conduisait, et j'ai besoin de me rappeler ces choses-là. Et enfin, je vais lui demander de le faire à nouveau. Je veux revoir ta gloire, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu du passé, tu es un Dieu du présent aussi et de l'avenir. Et je veux voir ta gloire maintenant, Seigneur. Et c'est seulement une fois que j'ai fait ces trois choses-là que je peux passer au prochain pas. Autrement, je ne suis pas prêt à le faire. Autrement, je m'approche de Dieu, et mon Dieu est gros comme ça, dans une toute petite boîte. Mon Dieu n'a pas la grandeur qu'il a pour de vrai. Je le vois comme étant tout petit. Mais une fois que je me suis rappelé qui est Dieu, ce qu'il a fait, et que je lui demande de le faire à nouveau, je peux commencer à dire à Dieu comment je me sens. Et c'est le troisième pas que je vais faire. Je vais aller devant Dieu, je vais être honnête avec lui, je vais lui dire comment je me sens. Je vais lui dire mes sentiments, je vais être honnête devant lui, et lui dire si j'ai peur. Regardez au verset 12 ce que le roi dit. Il dit, « Nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer. » Le roi est en train de dire ça devant tout le monde. C'est des plans pour que tout le monde se tire en bas du navire tout de suite. C'est des plans pour que les gens commencent à faire leur bagage puis qu'ils déménagent dans l'autre direction. Mais le roi est honnête, il vient devant Dieu et il dit, « Seigneur, on est totalement impuissant. On est incapable. Je t'ouvre mon cœur, je te répands mon cœur. Seigneur, je regarde ça avec une tête froide, avec les idées claires, puis ça se peut pas, Seigneur. Les chances ne sont pas de notre côté. On est impuissant, on a peur, Seigneur. Et j'ai besoin d'avoir cette honnêteté avec Dieu. Réaliser que j'ai pas besoin de jouer un jeu, puis d'être un héros. De toute façon, je ne suis pas. Je n'ai pas la puissance, c'est lui qui l'a. Alors, juste avoir cette honnêteté d'aller devant lui et de lui dire comment je me sens. C'est quoi mes sentiments par rapport à cette situation-là? Alors, c'est important de dire à Dieu comment est-ce que vous vous sentez. Vous dites, « Seigneur, je me sens écrasé, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. » Maintenant, juste une comparaison. Regardez les versets 12 et 6. C'est intéressant. Au verset 12, il dit, « Nous sommes impuissants. » Au verset 10, il avait dit, « Tu possèdes toute la puissance. Tu es puissant. » À ce moment-là, les choses prennent une toute autre perspective. Voyez-vous? Je suis capable de répandre mon cœur devant Dieu. Je ne suis pas en panique. Moi, je me sens écrasé, mais je me suis rappelé qui était Dieu. Je me suis rappelé sa puissance, je me suis rappelé sa grandeur. Moi, je n'ai pas la puissance, vous ne l'avez pas. Mais Dieu possède cette puissance pour venir renverser cette situation-là. Et vous n'avez qu'à placer votre confiance en lui, vous tourner vers lui et croire que Dieu va le faire en lui disant comment vous vous sentez. Alors, premièrement, je me tourne vers Dieu. Au lieu de courir ailleurs, puis paniquer, puis essayer de prendre le contrôle de la situation, je me tourne vers lui. Deuxièmement, je veux me rappeler qui il est, ce qu'il a fait dans le passé. Ensuite, je vais lui dire comment je me sens face à cette situation-là. Et je vais croire que Dieu veut me sortir de cette situation difficile. Enfin, je vais décider de croire par la foi que Dieu va m'aider. Je vais saisir par la foi les promesses de Dieu et je vais croire que Dieu va me sortir de là. Regardez le verset 12. Le verset 12, il dit, « Nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi. » Et ça, c'est la clé. Nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi. Nous tournons la tête vers toi, Seigneur, parce que c'est de là que nous viendra le secours. Nous choisissons d'avoir confiance en toi. Et c'est ici que les gens font la plus grosse erreur. Ils ne détournent pas les regards de leurs problèmes pour tourner les regards vers Dieu. Gardez les regards fixés sur le problème, puis ça devient une obsession. Ça devient immense. Quand ils sont dépassés, garde les yeux fixés là. Corrie Ten Boom. J'espère que vous avez vu soit son film The Hiding Place ou lu un de ses livres. Son témoignage, c'est une sœur extraordinaire qui a traversé, qui a vécu dans des camps nazis. Et vraiment une femme de foi. Elle a perdu plusieurs personnes de sa famille à travers la guerre. Et voici ce qu'elle dit. C'est une femme d'expérience. Elle a vécu des choses autrement plus difficiles que moi. Voici ce qu'elle dit. Si vous fixez les regards sur le monde, vous serez rempli d'inquiétude. Si vous regardez à l'intérieur de vous-même, vous serez découragé. Mais si vous regardez à Christ, vous vivrez le repos. Voyez-vous, tout dépend de la perspective de l'endroit où je fixe les regards. Et ça va faire toute la différence. Sur quoi est-ce que vous fixez les regards ces temps-ci? Qu'est-ce qui vous obsède de ce temps-là? Si vous vivez de l'inquiétude, c'est certainement pas sur Dieu que vous fixez les regards. On ne peut pas avoir les regards focusés sur le Seigneur et vivre du découragement et de l'inquiétude en même temps. On ne peut pas le faire. Sur quoi est-ce que vous fixez les regards actuellement? Où sont vos yeux? Où est-ce que vous regardez? Vous avez besoin de vous tourner vers lui pour savoir qui il est. Vous savez ce qu'il a fait dans le passé. Vous savez ce qu'il peut faire de nouveau. Et vous décidez de tourner les regards vers lui pour espérer en lui. Et regardez la réponse qui est donnée par Dieu au roi Josaphat au verset 15. « Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. » Encerclez ça. « Cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. » Dieu est en train de vous dire « Calme-toi, ayez confiance, je serai là pour toi. » Ce qui fait souvent qu'on est écrasé, qu'on est épuisé, accablé par des situations, c'est qu'on essaie de livrer les combats de Dieu à sa place. Nous essayons de livrer les combats de Dieu à la place de Dieu. On prend ces choses-là à cœur, puis on s'engage là-dedans. Vous vous engagez dans des batailles qui sont pas les vôtres. Vous essayez de sortir victorieux de ça. Vous essayez de combattre à la place de Dieu. Vous sortez de là, vous êtes épuisé, vous êtes vidé, et on essaie trop souvent de prendre la place de Dieu. Vous dites, je vais y arriver par ma volonté, par mon énergie, je vais réussir. Et là, on se retrouve à dire, Seigneur, par ma volonté, je vais y arriver, je vais sauver ce mariage-là, Seigneur. Je vais ramener mon enfant. Je vais aller le chercher. Je vais réussir à régler mes problèmes. Je vais me sortir du trouble par moi-même. Je vais réussir à apporter des succès dans ma vie. Je vais défendre ma cause par moi-même. Puis on s'engage là-dedans, puis on est en train de forcer toutes nos forces. Mais à un moment donné, Dieu est là à côté de nous, puis il dit, « Hey, oh, time out, qu'est-ce que tu fais là? C'est mon combat à moi, ça. C'est pas le tien, qu'est-ce que tu es en train de faire là? » Mais nous, on s'engage là-dedans avec toutes nos énergies, puis on force, puis on force, puis inévitablement, à un moment donné, on est épuisé. On n'est plus capable, parce qu'on est en train d'essayer de prendre quelque chose qui est trop gros pour nous. Et puis on devient épuisé, on est prêt à laisser tomber. On a de la difficulté à saisir ces choses-là. On a de la difficulté à comprendre que Dieu veut venir se glorifier dans notre vie. À un certain moment donné, Dieu nous voit en train de forcer, et il vient nous arrêter, puis il nous dit, « Il y a quelque chose que tu n'as pas saisi, je vais t'expliquer quelque chose tout de suite. Ce combat-là, c'est mon combat à moi, parce que tu es mon enfant. » Et si tu es mon enfant, ce ne sont plus tes combats, ce sont mes combats. Voyez-vous, quand moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ce que je n'avais pas accepté pendant très longtemps et qui a été très très clair cette journée-là, c'est que j'étais en train de devenir serviteur de Jésus-Christ. Et toute ma conversion a tourné autour de ça pour moi. Ce jour-là, c'était très clair. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est plus ma vie. Ce n'est plus ma vie, c'est ta vie maintenant, Seigneur. Je la prends et je te la confie, Seigneur. Je veux qu'elle serve à ta gloire, Seigneur, pas à la mienne. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, fais ta volonté avec ma vie. Parce que c'est ta vie maintenant, elle t'appartient. Je suis ton serviteur, Seigneur. Et lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, c'est ça qu'on est en train de faire. Hein? On est en train de dire, Seigneur, je ne serai plus serviteur de mes propres intentions, mais ton serviteur à toi, je vais t'appartenir. Et voyez-vous, le propre d'un serviteur, c'est de venir se placer dans la maison de son maître. Le serviteur est le serviteur d'un maître. Il entre sous la protection de son maître. Et c'est le maître qui est responsable de pourvoir à tous ses besoins. Lorsqu'on est serviteur, on est sous la protection du maître. C'est le maître qui est responsable de pourvoir à la nourriture pour le serviteur, de pourvoir à son logement, de pourvoir à ses assurances, à ses frais médicaux, de pourvoir à tous ses besoins. Et le jour où j'ai donné ma vie à Christ, je suis entré dans la maison d'un bon maître qui me dit, Yannick, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus ta vie, c'est la mienne. Ce n'est plus ta cause, c'est la mienne. Ce ne sont plus tes combats, ce sont mes combats. Et c'est ça que Dieu essaie de nous communiquer. C'est ça que Dieu essaie de nous dire. Laissez-moi l'illustrer autrement. Laissez-moi vous le montrer d'une autre manière, ou l'illustrer autrement. Il y a un mois environ, j'ai fait un voyage avec Jean-Philippe. On est allé à Los Angeles. Alors évidemment, on a pris l'avion pour se rendre à Los Angeles. On n'est pas allé là en voiture. Imaginez un instant qu'au moment où on arrive à l'aéroport puis on se prépare à embarquer dans l'avion, au lieu de suivre Jean-Philippe à l'intérieur de l'avion, moi je fais juste comme me pousser vite, puis je m'en vais grimper sur une des ailes de l'avion. Jean-Philippe s'installe au hublot juste à côté de moi, puis moi je m'installe sur l'aile, puis évidemment Jean-Philippe me regarde en voulant dire « qu'est-ce qui se passe, Joe? » Puis là, l'avion commence à rouler. Quand l'avion commence à rouler, moi, je commence à battre les bras comme ça, très, 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 très fort, le plus vite que je suis capable. Puis je m'applique. Fait que mon Jean-Philippe est là, de l'autre bord du hublot, puis il me regarde. « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » « Ben, je suis en train d'aider l'avion à décoller, Jean-Philippe, sauve-moi, on va y arriver, on est capable, mon gars, on est capable! » Jean-Philippe me dit, « Mais ouais, non, qu'est-ce que tu es en train de faire? T'as pas besoin de faire ça. Viens t'asseoir avec moi, on prend un café, viens relaxer avec moi. » « Non, 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 je te dis, je suis engagé là-dedans, on va réussir, on est capable! » Puis l'avion est en train d'avancer, puis l'avion va de plus en plus vite. Finalement, l'avion décolle, puis je suis là, puis je bats les ailes, puis l'avion est en train de décoller, c'est extraordinaire! Mais finalement, à un moment donné, moi, je commence à m'essouffler, évidemment, je commence à m'épuiser. À un moment donné, je suis juste plus capable, puis les bras me tombent, puis vous savez quoi? L'avion s'écrase pas. L'avion continue à voler. L'avion tombe pas, pique pas du nez. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me laisser aller, puis de m'asseoir à côté de Jean-Philippe, puis apprécier. Certains d'entre vous, ce matin, Dieu vous a amené à l'Église avec le seul but, le seul objectif, de venir à côté de vous, puis de dire, « Tu veux-tu arrêter de battre des ailes? Tu veux-tu arrêter un instant? C'est moi qui dois te soutenir. » Alors peut-être que vous vous débattez avec toutes sortes de choses depuis un bon bout de temps. Vous vous débattez avec un problème, une situation, une relation qui vous inquiète terriblement. Puis vous vous dites, on va y arriver, puis vous essayez de toutes vos forces. Peut-être encore que vous êtes venu ce matin, comme moi, après le décollage, vous êtes dans l'épuisement. Vous n'êtes pas capable de soutenir le combat. Puis vous vous en venez ce matin, puis vous dites, Seigneur, je ne suis plus capable. J'y arrive juste pas, Seigneur. C'est trop gros pour moi, Seigneur, j'abandonne. Le Seigneur est là à côté de vous et il dit, enfin, t'abandonnes. C'est extraordinaire. Ça fait des années que j'attends pour que t'abandonnes. C'est vrai. C'est vrai, t'abandonnes. Parce que voyez-vous, tout ce temps-là où, par panique, on est en train d'essayer de gérer nous-mêmes ces situations-là, en réalité, ce qu'on est en train de dire à Dieu, c'est que c'est nous qui gardons le contrôle. Mais si vraiment vous êtes prêt à abandonner, Dieu est là puis il vous dit, c'est vrai, t'abandonnes? Tu me laisses le contrôle? Je vais commencer à pouvoir faire quelque chose avec cette situation-là dans ta vie. Puis je pense que pour certains d'entre vous, pour une rare fois dans son existence, Dieu manque même un petit peu de foi. Puis il dit, c'est-tu vrai, là? Tu ne feras pas le backseat driver, là. Tu ne vas pas rembarquer puis dire, ben, tu sais, Seigneur, en fin de compte, faudrait que tu viennes par là. Et peut-être que c'est pour ça que Dieu vous a amené à l'église ce matin. Juste pour vous dire, arrête de battre des ailes. C'est mon combat à moi, ce n'est pas ton combat. Si tu es mon enfant, c'est mon combat. Si tu m'appartiens, c'est ma victoire à aller chercher, ce n'est pas la tienne. Maintenant, c'était une guerre assez inhabituelle qu'on avait ici. Dans 2 Chroniques 20 au verset 17, on lit, « Vous n'aurez même pas à combattre. » Quelle sorte de bataille, c'est ça? Il dit, « Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. » Vous voyez, ce n'est plus le problème d'Israël. C'est le combat de Dieu. Ce n'est plus le problème d'Israël. Tout ce que Dieu leur dit, c'est relaxer. Mais il y a des gens ici, parmi vous, parmi nous, qui ont le syndrome d'Hercule. Vous marchez toute votre vie comme ça, comme si vous portiez tout le sort de l'univers sur vos épaules. Puis vous avancez toujours comme ça. Ce matin, je vous invite à remettre votre démission comme superviseur de l'univers. Comme bras droit de Dieu. C'est vrai. Soyons honnêtes. Vous n'avez pas besoin de soutenir Dieu, c'est le rôle de Dieu de vous soutenir. Et vous devez apprendre à abandonner les choses entre ses mains, dans une confiance paisible, dans une foi paisible, en ce Dieu puissant qui est là pour prendre soin de vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, prendre position? Qu'est-ce qu'il me reste à faire, moi, si je ne suis pas censé livrer le combat moi-même? Dieu leur dit, prenez position, tout ce que vous avez à faire. Et il s'agit là, en fin de compte, premièrement, d'une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur que je vais manifester en prenant position. Écoutez, quand même, Dieu est en train de leur dire, vous ne faites pas vos bagages, vous ne vous sauvez pas par là-bas. Dieu n'est pas en train de leur dire non plus, OK, regardez, on va faire quelque chose, vous barricadez les portes, vous vous enfermez à Jérusalem, juste au cas où j'en échapperai une coupe en passant. Vous comprenez? Non. Dieu leur dit, présentez-vous sur le lieu de la bataille. Prenez position et attendez paisiblement. Regardez la délivrance que je vais vous offrir. Et c'est ça que Dieu cherche chez nous. C'est ce moment où paisiblement, dans la foi, on prend position. Et on se repose en Dieu. On s'abandonne dans tes mains du Seigneur. Dans une foi paisible. Et on attend. On veut voir les exploits que l'Éternel se prépare à faire. Et c'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Prendre position paisiblement, sans fuir, sans sauver. C'est tellement facile dans notre société aujourd'hui d'avoir toutes sortes de manières de fuir. Il y a toutes sortes de manières dans notre société juste de fuir. Certaines très mauvaises, certaines pas nécessairement. Nommez le plaisir. Quel est votre moyen de fuir? Quel est votre vice? Tous des moyens pour fuir. Et Dieu nous dit, quel que soit le moyen que vous prenez, si c'est pour fuir, c'est hors de ma volonté. C'est toujours hors de ma volonté quand vous essayez de fuir. Dieu n'appelle pas ses enfants à fuir devant des situations. Fuir devant la tentation, c'est vrai. Fuir devant le péché, c'est vrai. Mais pas devant des situations qui nous intimident. Parce que Dieu veut étirer notre foi, comme Normand l'enseignait la semaine dernière. Dieu veut faire agrandir, veut faire grandir notre foi. Et le Seigneur est persévérant. Lorsqu'on prend la poudre d'escampette, souvent le Seigneur va ramener une situation semblable. Parce qu'il veut nous enseigner. Il veut nous apprendre à faire confiance et être prêt à prendre position calmement, paisiblement, en attendant la délivrance qui vient du Seigneur, en comptant sur lui seulement. J'aimerais ça vous lire un témoignage ce matin. Je trouve que il illustre tellement bien cet abandon entre les mains du Seigneur. C'est l'histoire d'une sœur, c'est une histoire vraie, une sœur dans la foi, elle s'appelle Jane Wallace. Voici son témoignage. Elle dit... J'aimerais partager avec vous comment Jésus-Christ a été ma force quand j'ai affronté des problèmes écrasants. Depuis des années, le verset biblique de 2 Corinthiens 12:9 est devenu le thème de ma vie, surtout quand tout semblait perdu d'avance. Quand l'apôtre Paul a vécu de la souffrance et des circonstances difficiles, Dieu lui a dit deux choses. Il lui a dit d'abord, « Ma grâce te suffit. » Puis Dieu lui a dit aussi, « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » J'ai trouvé par expérience que Dieu disait vrai. La première crise majeure dans ma vie est survenue quand mon père est décédé. Je n'avais que 6 ans et j'avais l'impression, après son décès, alors que j'étais si jeune, que mon père était simplement dans la pièce voisine, qu'il n'était pas vraiment parti. Cependant, la réalité de grandir sans un père m'a rattrapé en vieillissant. Bien des soirs, je me suis couché en priant qu'au matin, Dieu me redonne mon père. Ma mère, qui était sage, a fait en sorte que nous allions à l'église 2 fois le dimanche, le mercredi et à toutes les occasions spéciales. J'ai vraiment apprécié cette préparation et mon éducation à la maison. À l'église, nous avions un groupe de jeunes très solides qui m'a gardé de faire des bêtises. Maintenant, comme l'ont rapporté bien des études sociologiques, les statistiques ne parlent pas en faveur des enfants de familles monoparentales. Mais Dieu sait faire mentir les statistiques en étant lui-même un père pour celui ou celle qui n'en a pas. Quand je regarde en arrière, je peux dire honnêtement que j'ai eu une bonne enfance et une bonne adolescence. Durant mes années au collège, j'ai fréquenté une excellente église à Minneapolis qui se réunissait au campus de l'Université de Minnesota. Environ 1500 étudiants y assistaient et avaient une grande vision pour atteindre le monde pour Christ. Nous avons développé un programme chrétien qui visait à offrir de l'aide aux pays en voie de développement appelé Christian Corp. J'ai fait partie du noyau fondateur de cette église et de sa vision missionnaire d'envoyer des milliers de missionnaires laïcs vivre et servir autrement. Tout comme Paul était faiseur de tentes dans le Nouveau Testament, nous avons débuté des entreprises outre-mer pour nous supporter financièrement, vivant près des gens, gagnant le droit d'être entendus. Par l'église du campus, j'ai rencontré mon mari et mon compagnon de vie, Bill Wallace. Nous avons servi ensemble dans le ministère et mis ensemble sur pied quelques entreprises sur le campus avant notre mariage. Ces années de voyage missionnaire et de service furent un temps incroyable, dans la présence de Dieu, avec la famille de Dieu, et nous avions le sentiment que nous faisions quelque chose dans le monde pour l'avancement du royaume de Dieu. Après notre mariage, nous sommes déménagés en Angleterre pour servir, et c'est là qu'est né notre fils John. Nous avons vécu plusieurs défis et expériences merveilleuses en Angleterre, et il y faisait bon vivre. Après quelques années, Bill et moi avons senti que Dieu nous appelait à revenir au Minnesota pour prendre la relève au lac supérieur dans le nord du Minnesota, propriété de ses parents qui vieillissaient. C'est ce que nous avons fait et ce fut un beau ministère. C'était comme si tu invitais des gens dans ton salon pour partager l'amour et la vérité de Jésus. C'était une situation de service idéal. Un jour que je conduisais le long de la rivière nord du lac supérieur avec mon fils, la pensée m'est venue. Que ferais-tu si quelque chose arrivait à Bill pendant que tu es ici? Je savais que je retournerais immédiatement à Minneapolis et que je me joindrais à la Christian Corp. J'ai chassé cette pensée car j'avais parfois tendance à imaginer les pires scénarios possibles et à m'inquiéter inutilement. Un jour d'automne, après une période particulièrement pluvieuse, Bill me dit que son frère Luc et lui allaient en canot traverser la gorge de la rivière pour aller dans le lac supérieur. Ça semblait amusant et les vagues étaient très hautes. Je lui ai demandé si John, notre fils d'un an, et moi pouvions y aller, mais il a dit non, ce qui n'arrivait pas souvent. Notre maison était située sur le terrain où la rivière se jetait dans le lac. Après un moment, j'ai regardé par la fenêtre l'endroit où j'étais et j'ai vu les deux gars qui partaient. Quelques minutes plus tard, en me dirigeant vers la sortie, j'ai essayé de voir à travers plusieurs fenêtres. Je ne les voyais plus. J'ai attendu un peu et essayé de les voir de différents angles, puis j'ai commencé à m'inquiéter. Mon beau-père est venu vers moi et je lui ai dit que j'étais inquiète. Il a fait quelques appels et nous nous sommes rendus chez un voisin de l'autre côté de la rivière. Un sentiment de panique commençait à s'installer dans mon cœur. Nous sommes revenus à la maison et avons pris deux autos séparées. Ma belle-mère, qui s'appelait Suzy, m'a accompagnée. Nous avons à nouveau traversé le pont de l'autre côté de la rivière, descendu une route de terre où les cabines étaient plus près du lac. J'ai vu un homme. J'ai immobilisé la voiture et me suis dirigé vers lui, laissant ma belle-mère à l'intérieur de l'auto, et je lui ai demandé s'il avait vu ou entendu quelque chose. Il a dit, « Oui, mais s'il vous plaît, ne le dites pas à Suzy. » Il n'avait pas réalisé qui j'étais. Cet homme me dit qu'il avait entendu des appels au secours, mais qu'il n'avait pas pu les secourir, car leur bateau n'était pas assez fort pour affronter les vagues. À cause de la température de l'eau, le temps de survie dans le lac supérieur est d'environ 10 minutes. Je savais que mon mari était probablement disparu. Je suis resté là pendant un moment en état de choc, puis j'ai marché à travers les bois. Un cri à vous glacer le sang est sorti de mon cœur. Ça ne se pouvait pas. Dieu ne me ferait jamais ça. Comment pouvait-il prendre celui à travers lequel il avait exercé un si grand ministère envers moi et me laisser seul encore une fois? Ce n'était pas possible et ce n'était certainement pas juste. Parlez-moi de malheurs qui s'accumulent dans une seule vie. Parlez-moi de voir tout se tourner contre vous. Tout ce que j'avais à dire à Dieu, c'est « Jésus, tu ne peux pas me faire ça, ni à mon fils non plus. » Je suis retourné à la voiture, puis à la maison, et j'ai tourné en rond pendant des heures, même des jours. J'étais incapable de regarder mon fils en face, alors qu'il était assis dans la salle familiale avec le personnel du camp. Me rappelant comment j'avais perdu mon père à 6 ans, je ne pouvais pas supporter la pensée de sa souffrance et de la mienne par le fait même. Les hélicoptères survolèrent le lac jusqu'à ce qu'ils appellent pour dire qu'il était inutile de continuer. Ils n'avaient trouvé qu'un seul corps et ne voulaient pas me dire de qui il s'agissait. Ils ne voulurent pas me dire qui c'était. Le corps de Bill ne fut retrouvé qu'un mois plus tard. Au cours d'une conversation téléphonique avec mon pasteur de Minneapolis, Dieu m'a donné des paroles de sagesse et de délivrance. Jane, tu dois remettre l'esprit de Bill à Jésus. Remercie Dieu et laisse-le aller. C'était comme si Jésus me parlait directement. J'ai attrapé le pasteur de mon église locale et mon beau-père et nous sommes allés tous les trois dans un bureau du personnel. Nous nous sommes agenouillés et j'ai remercié Jésus pour le précieux cadeau de toutes ces années passées avec Bill. Nous l'avons laissé aller à Jésus. J'ai réalisé mon impuissance à changer quoi que ce soit, mais je savais que Dieu était au contrôle, même si je ne le sentais pas, Dieu m'aimait toujours. Quel miracle a alors eu lieu dans mon cœur? À ce moment-là, j'ai commencé un long voyage d'apprentissage de ce que veut dire le verset « Je suis persuadé que ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. » Les semaines qui ont suivi furent étonnantes. J'ai porté la souffrance de perdre l'être le plus cher sur la terre pour moi. Mais la force de Dieu dans ma faiblesse s'est manifestée de bien des manières. J'ai pu chanter aux funérailles en nous réjouissant pour le fait que Bill et Luc étaient à présent auprès du Seigneur et plusieurs personnes se sont converties cette journée-là. Le médecin de la place a commencé sa quête de Dieu ce jour-là parce qu'il était étonné de la différence dans la façon dont les chrétiens font face à la mort. Il sert maintenant le Seigneur à Washington dans une clinique qu'il a mis sur pied pour des gens pauvres. La mort prématurée de mon mari a aussi permis un processus de guérison et de pardon entre mon beau-père et ma belle-mère. Au cours des années, j'ai fait face à d'autres batailles et des pertes difficiles. La perte de mon beau-père, la perte de ma mère décédée d'un cancer, la perte d'amis et de frères et sœurs partis servir outre-mer. Mais ces pertes font partie de la vie. Chacun perd éventuellement des êtres chers et chacun fait face à des luttes. Mais tout de même, Dieu m'a prouvé que la vie ne peut vous séparer, ne peut nous séparer de son amour. Sa force est rendue parfaite dans notre faiblesse et sa grâce est suffisante et plus que suffisante. Sa grâce me couvre. Maintenant, parce qu'on m'a demandé de donner mon témoignage et parce que je suis une mère très fière, vous devrez m'entendre parler de mon fils aussi. Mon fils est maintenant au collège à Minnesota et j'ai reçu un courriel de lui il y a quelques mois. Les deux dernières lignes disaient ceci. « Maman, même si je suis sans le sou et que la vie est comme des montagnes russes, j'en aime chaque minute, même les plus difficiles. Et à travers ça, j'apprends à aimer Dieu davantage et à apprécier son amour d'une façon toute nouvelle. Dieu est formidable, n'est-ce pas? » Inutile de vous dire que Dieu a touché mon cœur par les paroles de mon fils. C'est la vérité telle que je l'ai vécue moi aussi. Notre bonheur ne repose pas sur nos vies parfaites ou imparfaites, mais dans le fait que nous nous confions entièrement en Dieu, en apprenant à nous reposer en lui et à lui faire confiance quand la chance ne semble pas être de notre côté. En terminant, si vous passez par des temps difficiles en ce moment, je vous encourage à répandre votre cœur devant Dieu. Il comprendra. Faites-lui part de vos sentiments et faites-lui confiance pour vous aider, vous soutenir et vous défendre quand vous vous sentez écrasé. Et joignez-vous à d'autres croyants parce que Dieu travaille à travers son peuple. Attendez-vous à ce que Dieu prenne soin de vous et il le fera. Il est notre protecteur. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quel témoignage, hein? Il reste un dernier pas à faire lorsque tu veux faire face aux situations difficiles. Et je vais vraiment la résumer. Mais en même temps, je ne veux pas que vous manquiez ça dans le texte et je vais vous demander d'y retourner cette semaine. Le dernier pas à faire, c'est de remercier Dieu à l'avance. À l'avance, alors même que vous êtes dans la tempête, que vous voyez l'œil du cyclone et vous avancez vers vous, c'est à ce moment-là que vous devez rendre grâce. Et je vous lis simplement un verset ici. Au verset 21, il est dit « Le roi s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel car son amour dure à toujours. » Voyez-vous, le plan de marche de Josaphat, c'était de mettre la chorale en avant de l'armée. Fait qu'il a rassemblé tout le peuple et il a dit « Y en a-tu une couple qui savent bien chanter ici? Y en a-tu des musiciens? Y en a-tu qui grattent des guitares, qui font quelque chose comme ça? » Avancez-vous un instant. On va faire une petite chorale tout de suite, là, maintenant. Là. On va mettre notre petite chorale devant notre petite armée. Puis vous allez commencer à louer Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ils ont commencé à louer l'Éternel. J'imagine si l'autre armée les avait entendus à l'autre bout commencer à chanter des chants de joie et de réjouissance. Mais voyez-vous, Israël était en train de déclarer sa foi parce qu'ils avaient commencé à louer Dieu avant d'avoir la victoire. Quand on loue Dieu, quand on rend grâce à Dieu, une fois qu'on a vu les exploits, ça c'est avoir de la gratitude envers Dieu. Quand on commence à louer Dieu, dans la tempête, au cœur de la tempête, ça c'est la foi. Certains d'entre vous traversez des situations qui sont difficiles. Peut-être que vous êtes le seul à les connaître aussi. Vous gardez ça pour vous. Quand est-ce que vous allez commencer à chanter, à louer Dieu? À déclarer « Dieu est amour, sa fidélité durera toujours. Dieu est là, il ne m'abandonne pas. Dieu est puissant. » Quand est-ce que vous allez commencer à chanter? Allez-vous attendre la fin pour rendre grâce à Dieu? Ça, c'est de la gratitude. Ou allez-vous commencer à louer Dieu maintenant, par la foi? Seigneur notre Dieu, nous sommes assemblés devant toi ce matin et je suis reconnaissant, Seigneur, pour ce passage dans 2 Chroniques qui a touché mon cœur. Quel homme de foi, ce Josaphat, et quel peuple fidèle, Seigneur, qui vraiment est revenu à toi, Seigneur. Pour avoir le courage de te croire, Seigneur, de ne pas oublier qui tu es dans les moments difficiles, de se rappeler tout ce que tu as fait dans le passé. Quel peuple fidèle, Seigneur! Oh Dieu, viens nous enseigner à nous aussi, à marcher par la foi, à nous tourner premièrement vers toi, Seigneur, à se rappeler qui tu es, à ne pas prendre panique, détourner les regards de nos problèmes pour fixer les regards sur toi, Seigneur. Et te dire comment on se sent, Seigneur. Et te demander de faire encore aujourd'hui, comme le Dieu du présent, des miracles dans notre vie maintenant. Enseigne-nous, Seigneur, à te louer en toutes circonstances. Avant de voir les victoires, par la foi, Seigneur, à te célébrer, ô Dieu. Afin, Seigneur, comme pour le peuple d'Israël, que les nations environnantes apprennent à craindre l'Éternel et à te révérer à cause de ce que tu fais dans nos vies. C'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen. Amen.